des livres,
de la musique,
des jeux,
du cinéma,
des animations,
des événements,
des rencontres.
À Radio Bartas, on vous parle de nos coups de cœur.
L'eau à la bouche, une émission proposée par la bibliothèque de Florac Trois-Rivières et ses amis.
Bonjour Pauline.
Aujourd'hui, l'équipe de l'eau à la bouche, voyage au Proche-Orient. Et donc j'avais envie de vous parler de « Aux nuits, aux mes yeux » de Lamia Zadié, qui est une illustratrice et autrice franco-libanaise. Et il s'agit là d'un roman graphique qui est paru chez POL il y a quelques années déjà, et qui est un roman qui a été pour moi l'occasion de faire la connaissance avec les stars de la chanson et du cinéma au Proche-Orient. On y rencontre une multitude de personnages, des célébrités reconnues dans le monde entier, comme Fairuz ou Oum Kalsoum, mais aussi des personnalités légendaires de ce qu'on appelait alors le Hollywood sur Nil. Parmi toutes les personnalités qu'on y rencontre, Rosel Youssef, actrice et patronne de presse.
Elle se fait vraiment remarquer le jour où elle accepte d'incarner sur scène une vieille femme de 70 ans. Rôle que toutes les autres actrices de la troupe ont refusé. Elle a alors 14 ans. C'est un triomphe. Sa carrière s'envole. C'est au sommet de sa gloire, en 1925, qu'elle décide d'y mettre fin et quitte la troupe Ramsès de Youssef Wahbi, alors la plus prestigieuse du Caire. Choquée depuis des années par la manière dont la presse traite les actrices, allant parfois jusqu'à les insulter, elle décide de créer un magazine de qualité pour les défendre et parler autrement du milieu artistique en général. Comment en va-t-on appeler ce magazine ? Contre l'avis des hommes dont elle s'est entourée, écrivains et éminents journalistes, elle décide de le baptiser de son propre nom, Rose El Youssef. Elle tient à lancer ce magazine comme un défi. Écoutez ce que j'ai à vous dire, moi, Rose. Moi, une actrice. Moi, une femme. Au début, consacrée aux arts, Rose El Youssef se met peu à peu à aborder des sujets sociaux et politiques sans aucun tabou. Rose El Youssef s'oppose aux Anglais, ose s'opposer aux Anglais, ose s'attaquer au roi, ose défendre les femmes, ose parler de sexe, se fait une spécialité de la caricature. Impertinent et avant-gardiste, il voudra beaucoup d'ennuis à Rose, y compris des séjours en prison. Rose El Youssef paraît toujours au Caire aujourd'hui et c'est le seul magazine au monde portant le nom d'une femme.
Et j'ajouterais aussi que ce magazine, donc Rose El Youssef, dans les années 80, a publié des extraits des versets sataniques de Salman Rushdie. Parmi les autres personnalités qu'on rencontre dans ce roman, Samia Gamal, qui est une danseuse orientale, qui s'est fait connaître pour danser la danse orientale, mais sur talons hauts, et qui forma un duo très connu à l'époque avec l'acteur de cinéma Farid El Atrache, qui était également oudiste, chanteur et compositeur. Et enfin, j'ajouterai une autre personnalité qui, moi en tout cas, m'a vraiment interpellée, qui est la mystérieuse Ashmahan, qui est une princesse syrienne druze, la sœur de Farid El Atrache dont je parlais précédemment, et qui a une vie scandaleuse et qui est morte noyée dans le Nil dans des circonstances assez troubles puisqu'elle était espionne. Tout récemment, je crois qu'il y a eu deux documentaires consacrés à Ashmahan dans l'émission sur France Culture qui s'appelle Une histoire particulière. L'auteur nous fait en même temps plonger dans les faits historiques qui ont marqué les vies de tous ces personnages, la chute de l'Empire ottoman, la lutte entre les Français et les Anglais au Proche-Orient, la création de l'État d'Israël, la nationalisation du canal de Suez. Enfin, autre particularité de ce roman graphique, c'est qu'il est richement illustré. Il comptait en effet 400 illustrations sur 576 pages. Donc ça, c'est pour les personnes qui pourraient être impressionnées par le volume de l'ouvrage. Et toutes sont réalisées à la gouache, même si certaines ont l'apparence de l'aquarelle ou de l'encre. Ces illustrations nous font rentrer dans l'ambiance du Proche-Orient, de la fin de l'Empire ottoman à la fin des années 70.
Alors, autre extrait de ce roman, c'est le cas de Munira El Madeya. Munira est un personnage exceptionnel, une Almée à la beauté moderne, à la voix inégalable et au tempérament unique. Elle est la première femme égyptienne musulmane à interpréter des rôles féminins sur scène. Jusque-là, ces personnages étaient joués par des hommes déguisés, des chrétiennes syriennes et libanaises ou des juives. L'immédiat après-guerre est une période faste. Elle chante des chansons légères dans une Égypte engluée dans le conservatisme et des chants nationalistes censurés par les Anglais. Son théâtre devient le lieu de rencontre de nombreux politiciens et journalistes.
Pour terminer, je dirais que ce roman m'a surtout donné l'envie d'en savoir plus. Et je me suis surpris à la suite de cela d'aller regarder des vidéos, écouter des musiques de ces époques. Et je réécoute d'ailleurs régulièrement certaines mélodies avec plaisir, comme ce tango oriental de l'entre-deux-guerres chanté par Ashmahan. Donc je ne m'aventurerai pas à prononcer le titre.
حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي من بعدك سهرانة من وقت بناجي خيالك من قدك وانا كاتمة غرامي وغرامي هلكني ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله نار حبك روحي وقلبي وجسمي وعقلي وجمالي في يدك محتار اعمل لك ايه في دلالك ليه اخبي غرامي وغرامي هلكني لا اشكي وابكي واحكي بلكي يا غزالي يلين قلبك شوف اللي جرالي من بعدك سهرانة من وقت بناجي خيالك من قدك وانا كاتمة غرامي وغرامي هلكني ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله نار حبك
Donc, excellente transition pour parler, on reste toujours au Proche-Orient, pour parler du Silence d'Isra, Jacqueline.
Alors, le Silence d'Isra, c'est le premier roman d'Eda Frum. Elle nous invite à entrer dans un univers complexe et troublant, celui des femmes palestiniennes exilées aux États-Unis. Mais ne dire que cela, c'est déjà réduire la portée et la profondeur de ce roman. Avec subtilité et élégance, l'auteur aborde à la fois les peurs, les contradictions, les croyances de trois générations de femmes. La grand-mère, Farida, dont on va découvrir tardivement le passé. Elle a une belle-fille, Isra, dont on découvre tout de suite la raison de son arrivée à New York, et Daya, la petite fille, qui, ayant le même âge que sa mère lorsqu'elle l'a mise au monde, se questionne sur sa vie, ses choix. Il y a un autre personnage clé, Sarah, dont on vous laisse découvrir la trajectoire. Le récit commence en 1990 et évolue jusqu'en 2009, mais il y aura des réminiscences, en particulier concernant Farida et son mari. Énormément de sujets sont abordés. Soit l'auteur nous conte la situation présente ou passée des personnages, soit elle retrace leurs pensées, leurs réflexions, soit elle met en scène leurs dialogues. Cela offre des respirations dans ce récit qui, de sombre, va quand même se diriger lentement vers l'espoir et le changement. Et même si ce n'est pas si simple de survivre sans les liens de la famille, il y a des échappatoires. Comment ? Grâce au livre. La lecture est à la fois un refuge et aussi un vecteur d'émancipation. La parole aussi libère. Il y a le pouvoir de la langue maternelle à l'intérieur et l'anglais à l'extérieur. C'est tout cela qui permet de sortir des règles mortifères de la communauté. Ainsi, un petit extrait concernant Farida et Isra.
« Cette fois, c'est un garçon, déclara Farida, en examinant l'abdomen d'Isra, tâchant de déterminer si le fœtus était haut ou bas, en largeur ou en longueur. « Je le sens, Inch'Allah, murmura Isra. « Non, 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 répliqua Farida, c'est un garçon, pas de doute. Regarde comme ton ventre est haut. » Isra baissa les yeux. Elle n'avait pas l'impression qu'il soit si haut que ça, mais elle espérait que Farida ait raison. Lors de sa dernière visite, le docteur Jaber lui avait demandé si elle voulait connaître le sexe de son enfant. Et Isra avait refusé. Elle ne voyait pas l'utilité de souffrir avant l'heure. Au moins, ainsi, il lui restait un semblant d'espoir auquel se raccrocher pour aller au bout de cette grossesse. Elle aurait été incapable de mettre cet enfant au monde si elle avait su qu'il s'agissait d'une fille.
Rien n'est ni tout noir ni tout blanc dans ce récit. Il y a les actes, il y a les pensées, il y a les cheminements intérieurs. Il en est de même pour les hommes qui n'ont pas tellement le beau rôle, mais qui eux aussi ont une histoire, souffrent et se trompent. Et en effet, beaucoup se trompent, s'égarent, englués dans des schémas ancestraux, des coutumes strictes, des superstitions. Le texte est empreint de sensibilité, mais aussi de sobriété. Etafrum, équilibre, nuance, ne met pas de jugement. Mais attention, elle n'excuse pas pour autant. Bien sûr, et nommer la cause de l'exil, c'est inévitable. Mais l'évocation est là pour mieux comprendre la psychologie des personnages et leur besoin de conserver une culture, des repères qui aident à survivre. Autre extrait concernant Khaled.
Khaled aussi aurait pu la pointer du doigt, mais il était trop omnibulé par sa propre culpabilité. La nuit, il cachait sa douleur derrière un nuage de fumée de chicha. Mais il était évident que la perte de sa fille avait éveillé en lui un tout nouveau sentiment, le remords. Farida le lisait clairement dans ses yeux. Elle savait parfaitement ce qu'il disait. Toute sa vie, il s'était battu. Il était resté droit et fort, refusant de tomber en morceaux comme son père lorsque les soldats les avaient expulsés de chez eux, et s'était efforcé de préserver l'honneur de leur famille. Et tous ces efforts avaient été vains. Leur honneur avait été irrévocablement perdu.
Une saga, un polar, un conte oriental, vraiment un très beau texte.
Un très beau texte autobiographique, si je me souviens bien, puisque je crois que Etafrum a été mariée à l'âge de 18 ans et qu'elle a continué à faire ses études tout en ayant été mariée de force.
Donc on rappelle le titre, Le silence d'Isra d'Etafrum aux éditions de l'Observatoire 2020. Aujourd'hui, je vais vous parler, non pas d'un roman, mais d'un livre documentaire. Alors, n'ayez pas peur. Ça s'appelle « La fabrique des pandémies » de Marie-Monique Robin. Bon, personnellement, je n'ai pas la télé, mais j'écoute aussi certaines autres radios que Bartas, hein, nul n'est parfait. Et en ces temps troubles sanitaires, il m'est arrivé d'être parfois dubitative, fatiguée, voire exaspérée par ce que j'entendais. Ce livre documentaire vient balayer un peu tout le blablabla approximatif qu'on a eu et nous offre un panorama explicite et documenté de la situation passée et actuelle de la pandémie. Marie-Monique Robin est journaliste, réalisatrice et auteure notamment du Monde selon Monsanto. Pour cet ouvrage, elle a travaillé en collaboration avec Serge Mourant, chercheur, écologue et parasitologue. Alors, ça démarre assez fort. C'est la préface, voici ce que dans la préface Serge Mourant nous dit. On connaissait depuis longtemps les risques sanitaires liés à l'élevage industriel comme source majeure de sélection et d'amplification d'agents pathogènes à potentiel pandémique. Dès 2005, ce risque a été souligné dans un rapport commandité auprès d'experts de l'industrie, de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé animale et de l'Agence américaine pour l'agriculture. Voilà, c'est dit. Mais ce récit est salutaire car il est clair et explique assez bien les choses. Marie-Monique Robin utilise un langage simple et accessible et nous retransmet ce que les scientifiques ont observé, contrôlé, vérifié et corroboré avec des confrères à travers le monde. Nous avons donc un discours étayé et instructif. On découvre et on comprend mieux des mots comme anthropocène, biodiversité, fabrique des territoires d'émergence, etc. Et puis, ce mot bien utilisé, réchauffement climatique. Alors justement, un petit exemple sur l'histoire du réchauffement climatique. En août 2016, un garçon de 12 ans, vivant dans la péninsule de Yamal en Sibérie, est mort de la maladie du charbon, causée par une bactérie communément appelée anthrax. 2300 rennes sont morts et beaucoup de personnes sont tombées malades. L'origine, c'est la décongélation d'un renne infecté dû à un record de chaleur dans la région. 37 degrés contre les 17 habituels. Voilà. Autre petit exemple sur la question des territoires d'émergence, c'est l'exemple des orpailleurs en Guyane. Ces derniers déforestent ce qui ouvre la lumière sur les milieux aquatiques, ce qui permet aux oiseaux de mieux chasser les poissons, qui eux se nourrissent de petits invertébrés, qui eux se mettent à pulluler et qui vont se ravitailler de micro-algues qui, elles, du fait de la lumière et de l'augmentation de la température de l'eau et son manque d'oxygénation, prolifèrent et contiennent en grande quantité la bactérie qui provoque des maladies infectieuses comme l'ulcère de Buruli. Tous les chercheurs qui ont contribué à l'élaboration de ce livre sont d'accord pour affirmer qu'il faut réconcilier écologie, économie et culture, mais aussi qu'il y a des erreurs à ne plus commettre, comme la Thaïlande par exemple, qui a voulu remonter sa couverture forestière en faisant des plantations de monoculture d'EVA qui malheureusement entraîne la prolifération du moustique tigre. Ou encore, comme le montre l'étude faite entre les forêts de frênes en Allemagne, forêts attaquées par un champignon, et les forêts primaires dans les Carpates, ukrainiennes, où sévit le même champignon. Sauf que la diversité génétique des forêts ukrainiennes le rend beaucoup plus inoffensif qu'en Allemagne. Alors dans ce livre, on apprend aussi que ces chercheurs, ont appris à sortir de leur laboratoire, leur silo, comme ils disent, pour se confronter à la réalité sur le terrain. Les scientifiques ont compris que la recherche ne pouvait être que transdisciplinaire, et ça peut même aller très loin jusqu'à parler des langues, qui sont une ressource pour la nature, car elles véhiculent des savoirs essentiels et qu'elles sont aussi des sentinelles. Car si elles disparaissent, cela signifie que les écosystèmes auxquels elles sont liées sont en train de s'effondrer. Et autre nouveauté aussi dans ce livre, les scientifiques commencent aussi à avoir la nécessité d'alerter et d'interpeller. Ils reconnaissent qu'ils doivent sortir de leur tour d'ivoire. Ainsi, Georges Kadish affirme, les scientifiques doivent impérativement s'engager en faisant pression sur les politiques. Et une chercheuse finlandaise dont je tairai le nom parce que c'est trop dur à prononcer, renchérit « La science faillit à sa mission quand elle ne s'implique pas dans le processus de décision politique ». Aujourd'hui, ce n'est pas le PIB qui est indicateur de progrès, comme le dit Safa Moteshari, mathématicien. La meilleure science, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, est celle qui rend service à la société. Je vais terminer ce petit reportage sur ce livre qui m'a quand même un peu impressionnée, par une chose vraiment extraordinaire qui illustre mieux d'abord ce livre et aussi la modestie des chercheurs engagés dans cet ouvrage. C'est la rencontre en 2019 entre des Indiens Kogi de Colombie, il s'agissait de 3 chamans, une femme et 2 hommes, et une trentaine de chercheurs européens. Cela s'est fait grâce à l'association Chendukua, fondée par Éric Julien, qui aide ce peuple à récupérer ses terres qui sont à plus de 5000 mètres d'altitude et qui est un des réservoirs les plus importants de la biodiversité. Pour la petite histoire, Éric Julien, alpiniste, a été victime d'un œdème pulmonaire à 4500 mètres d'altitude et donc a été sauvé par un chaman Kogi. Donc, dans le livre, il est rapporté le récit de leur visite par les organisateurs. Les 3 chamans et les 30 scientifiques avaient pour mission de réaliser un diagnostic de santé écologique du territoire de Di, dans la Drôme. Chaque groupe devait travailler séparément pendant une semaine, puis se retrouver pour échanger pendant 3 jours. Les Kogi ont demandé à se promener dans la montagne. Quant aux scientifiques, ils se sont renfermés dans les archives et bibliothèques départementales où ils ont consulté des photos aériennes et des documents. Les organisateurs, eux, sont allés se promener avec les Kogi. Ils racontent « Alors que nous déambulions dans la montagne, les Kogi se sont arrêtés devant une installation de captage d'une source. Avec au milieu un gros bassin en béton entouré de barbelés et 2 tuyaux qui partaient vers les villages de la vallée. L'un des chamans était atterré. « Et comment vont faire les chevreuils ou les sangliers pour s'abreuver » a-t-il demandé. « Ils ont le choix entre mourir de soif ou partir. » Dans les 2 cas, il n'y a plus d'animaux. L'écosystème va s'effondrer. Puis, plus loin. Peu à peu, ils se sont immergés dans ce nouveau milieu naturel. Ils marchaient, puis s'arrêtaient longuement pour explorer les paysages du regard. Tout à coup, l'un d'eux est sorti de sa contemplation méditative et a dit « Cet arbre, il n'a rien à faire ici. » Les naturalistes connaissent bien l'arbre en question. C'est un pin noir d'Autriche qui a été planté abondamment à partir de la fin du XIXe siècle pour stopper l'érosion due à la déforestation des terrains de montagne. C'est un résineux qui pousse vite, mais qui a des aiguilles très acides, provoquant la stérilisation des sols. Voilà, je vous laisse méditer sur cette belle histoire en vous rappelant le titre « La fabrique des pandémies » de Marie-Monique Robin.
Des livres,
de la musique,
des jeux,
du cinéma,
des animations,
des événements,
des rencontres.
À Radio Bartas, on vous parle de nos coups de cœur.
L'eau à la bouche, une émission proposée par la bibliothèque de Florac Trois-Rivières et ses amis.